Bonjour à tous et bonjour aux visiteurs, des gens qui viennent un peu partout nous visiter pendant le temps de l'été. J'ai vu des gens là, de Trois-Rivières et d'autres qui viennent d'ailleurs, alors bienvenue. Salutations aussi à ceux qui nous écoutent sur l'Internet, des gens un peu partout aussi. On m'a annoncé une triste nouvelle, je ne sais pas si vous le connaissez, il est venu ici pendant quelques années. Mike Beauregard, avec son épouse Céline, Mike est décédé récemment, et puis on voulait vous annoncer que le service sera cette semaine, mercredi à 2h, à l'église où il allait. Il est déjà venu ici dans le passé, là dernièrement il allait à la Maison de l'Espoir de l'Outaouais, à Elmer, et ça va avoir lieu mercredi à 2h d'après-midi. D'ailleurs, on va vous envoyer, si jamais vous êtes inscrit, à Grandir Ensemble, c'est la lettre de nouvelles où on donne pas mal les nouvelles de l'église, les événements d'église. On vous encouragerait à vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, vous avez juste à donner votre courriel au kiosque à la fin du service, mais on va vous envoyer l'adresse et tout ça par courriel. Je ne sais pas, c'est probablement la même chose avec vous, mais lorsque ça m'est donné de pouvoir parler de Dieu, de spiritualité, du christianisme avec les gens, ça se limite pas mal à une discussion qui est un peu philosophique, ça reste un peu intellectuel. Les gens aiment bien certains des principes des Écritures. Ils vont souvent nous dire « Ah, j'aime bien… » Parfois, il y a des gens même qui vont lire la Bible, ils aiment ça, ils trouvent ça édifiant. Ils vont aimer certains principes comme « Aime ton prochain », puis « Comme toi-même ». Mais ça reste à quelque part là. Ils vont piger un peu ici et là. Justement, ma femme parlait à l'une de nos voisines qui vient de se marier. C'est un remariage. Alors, elle s'est… Elle a fait ça plus intime, seulement une vingtaine d'invités, et elle a fait ça dans sa cour. C'est vraiment bien. Et elle s'est mariée sur son balcon. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant, ma femme me disait, elle me racontait ça, c'est que juste avant que le mariage ait lieu, la célébration ait lieu, toutes les personnes ont dû quitter la maison. Ils ont demandé à tout le monde de quitter la maison, puis elle est restée seule avec son fils de 16 ans. Maintenant, son père est décédé, alors elle a demandé à son fils s'il pouvait la bénir. Donc, tu vois, son fils dans la cuisine, seul avec elle, puis il l'a béni, il a fait un signe de croix, là, puis il l'a béni. Et là, après ça, ils sont sortis sur le balcon pour se marier. Et en sortant sur le balcon, une des choses qui est frappante, ça me frappe, à chaque fois que je sors, je vois ça sur le balcon, il y a un gros Bouddha, comme ça, assez immense, assez gros, qui est là juste sur le coin du balcon. Donc, elle passe, comme là, c'est l'été, elle va passer plusieurs heures dehors à prendre un café, puis ça, un jus, je ne sais pas trop. Puis, elle a le Bouddha qui est là, qui la regarde. Il est vraiment placé dans le coin. D'ailleurs, quand je sors de la maison, je vois Bouddha qui me regarde dans le coin de l'œil. Alors, c'est un mix, c'est un mélange. Hein? Elle va prendre un peu de christianisme, un peu de bouddhisme. On me dit qu'elle va lire, d'ailleurs. Elle est très ouverte, elle est croyante. Elle disait à ma femme qu'elle était croyante. D'ailleurs, elle n'a pas tombé à terre quand ma femme lui a dit, elle a demandé à ma femme ce que je faisais dans la vie. Alors, ma femme a répondu, elle dit, il est pasteur. Elle n'est pas tombée à terre. Habituellement, quand on dit ça aux voisins, c'est, ils partent, mon ami, ils fuient, ils ont peur. Puis quand on sort, ils sont là, il est dehors, on se cache. T'sais. Je ne sais pas s'ils ont peur de quoi, là. Mais en tout cas, elle, non, c'était correct, très ouverte. Puis, mais c'est ça, les gens aujourd'hui, ils vont prendre un petit peu de ça, un petit peu des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans les Écritures, ils vont dire, tiens, il y a des bonnes choses, on va mettre ça en pratique. Certains principes, certains conseils pour les couples, d'ailleurs. Mais ils vont prendre d'autres choses aussi. Alors, ça reste là, ça reste une discussion, ça reste une façon de voir la vie. Ça se limite là pas mal le christianisme. Alors, lorsque tu ouvres les Écritures saintes, lorsque tu ouvres la Bible, l'une des choses que tu vas réaliser, finalement, c'est que ça ne se limite pas juste à un ensemble d'enseignements ou de croyances. D'ailleurs, c'est Paul qui va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, il va dire, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Il y a deux vérités là-dedans, en fait. Et d'ailleurs, c'était le problème des Corinthiens. On a fait toute une série sur la lettre de Corinthe, la lettre de Corinthiens. Si vous voulez l'écouter, c'est sur notre page sur l'Internet. Paul est en train de dire que c'est possible d'accepter le christianisme qu'en parole seulement. C'est tout à fait possible. Que ça reste purement intellectuel, seulement une philosophie, une façon de voir les choses. Mais Paul va plus loin. Paul dit que ça ne se limite pas juste à ça. D'ailleurs, il va même dire dans Romains 1, 16, il va aller plus loin. Il va dire, « Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Donc, le christianisme est une puissance. C'est une puissance. Ce n'est pas juste un ensemble de croyances. Et certainement, il y a des choses... Il faut croire à la parole, évidemment. On croit. Il y a tout un système de croyances, d'enseignements. On y croit. Mais même la parole... C'est une expression de la puissance. Le christianisme est une puissance. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui va adresser une lettre. Il va envoyer une lettre à certains chrétiens qui se trouvaient dans une ville qui s'appelait Thessalonique. Et c'est une des choses qu'il va faire. Il va remercier Dieu que les Thessaloniciens n'ont pas reçu la parole seulement comme une parole d'homme. Regardez ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 2,13. Il dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » Vous voyez, la parole de Dieu agit. C'est une puissance. Le christianisme, en essence, est une puissance. Maintenant, certains ne voient pas le christianisme comme ça. Ils voient juste comme un bon livre, un peu comme on va inscrire dans la section de psychologie ou de spiritualité à la librairie. C'est un livre qui va peut-être vous faire du bien. On aime certains principes pour notre qualité de vie. Mais ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que ce n'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une puissance. D'ailleurs, certains chefs religieux ont questionné un jour Jésus pour essayer de le piéger. Et Jésus lui a fait une réponse vraiment intéressante. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 22. Il dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et ces gars-là passaient leur journée à étudier les Écritures. Mais Jésus leur dit, « Vous ne comprenez pas du tout. Et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. » L'Évangile est une puissance. D'ailleurs, c'est le message que Jésus va vouloir livrer lorsqu'il va raconter deux paraboles très courtes, très petite. Nous sommes encore dans notre série sur les paraboles. Et aujourd'hui, on va regarder deux petites paraboles qui se trouvent dans Luc 13. Alors, je vous encourage, si vous avez votre Bible, à tourner dans Luc 13 et on va lire les versets 18 jusqu'au verset 21. Luc, chapitre 13, verset 18. Vous êtes là? Oui, Luc 13, verset 18. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparais-je? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un grand arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, verset 20, il dit encore, « À quoi comparaîtrais-je le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » La foi chrétienne est une puissance. C'est la puissance de Jésus-Christ qui vient habiter en nous lorsqu'on place notre foi en Jésus. C'est la vie de Jésus qui vient en nous. Par cette parabole, Jésus est en train de dire que la vie chrétienne, le christianisme, c'est toutes des expressions synonymes, ça se ressemble. Là. On parle du royaume de Dieu, le christianisme, la vie chrétienne, le royaume des cieux, tout ça, là, on parle de la même chose essentiellement. Le christianisme, la vie chrétienne, c'est une puissance. C'est un royaume qui règne. Et Jésus veut nous faire comprendre qu'il y a deux natures à cette puissance. Alors, les deux paraboles qu'il nous donne veulent nous montrer la double nature de la puissance du royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu est la puissance de vie. Et deuxièmement, le royaume de Dieu est la puissance de croissance. Il y a une puissance de croissance ici. Alors, la puissance qui vient dans notre vie est une puissance de vie. C'est une puissance qui est vivante, qui agit, qui pousse. Elle pousse lentement, elle va grandir lentement, mais assurément. Alors, ces deux éléments maintenant poussent. On parle de cette graine de moutarde qui est plantée dans la terre ou que ce soit finalement le levain qui va affecter, influencer toute la pâte. Les deux poussent, les deux grandissent. Alors, c'est une œuvre, c'est une puissance qui va faire son œuvre discrètement, mais elle va le faire, assurément. Alors, le premier aspect de la puissance du royaume de Dieu, c'est qu'elle est la puissance de vie. Devenir un chrétien se limite pas juste à adopter une série ou un ensemble de croyances ou d'enseignements. Et certainement, on veut étudier, comprendre tout ce qui s'enseigne. C'est la révélation de Dieu, c'est la révélation écrite de Dieu, la parole de Dieu. Et oui, un ensemble d'enseignements, de principes qui sont donnés, mais ça ne se limite pas à ça. Être chrétien, être dans le royaume de Dieu, avoir le royaume de Dieu dans sa vie, c'est renaître. C'est recevoir une nouvelle vie en nous. D'ailleurs, Jésus va prendre l'image ici du grain de moutarde. Voici une semence qui est introduite dans le sol. Et qu'est-ce qui arrive? Elle va grandir, ça va bouger. La Bible se sert d'une autre image, évidemment, pour représenter cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Ça va parler de la nouvelle naissance. Pour devenir un chrétien, il faut recevoir cette semence de vie. Et c'est ce que Jésus est en train de laisser ici entendre. Mais ça va revenir, ça, dans le Nouveau Testament, dans plusieurs passages. Prenons 1 Pierre 1, 23, par exemple, où il est dit ceci. « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Jacques aussi ajoute, « Il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Et dans Jean 3, ce passage que nous connaissons bien avec Nicodème, cet homme religieux qui vient voir Jésus, et Jésus de lui dire, « À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et 2 Pierre 1, qui dit ceci, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants à la nature divine. » Pensons-y, là. Devenir participant à la nature divine. Ces passages nous disent essentiellement la même chose. Être chrétien, ce n'est pas simplement adopter quelques principes de la Bible, parce qu'on va les trouver utiles et appropriés. Non, être chrétien, c'est naître de nouveau. C'est d'avoir une nouvelle vie qui pousse en nous. C'est recevoir une vie qui est surnaturelle, surhumaine. C'est recevoir une puissance de vie qui nous permet de participer à la nature divine. Naître de nouveau, c'est recevoir la vie éternelle, c'est recevoir une semence qui vient de l'extérieur, qui est introduite en nous et qui pousse, qui va grandir. Maintenant, Jean appelle ça l'Esprit de Dieu. 2 Pierre appelle ça participer à la nature divine. Cette vie surnaturelle et éternelle, cette vie divine vient de l'extérieur et elle s'introduit en nous. Et Pierre parle de l'image de cette semence qui est incorruptible. Et c'est ce que Jésus est en train de laisser entendre à travers ses paraboles. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de recevoir cette nouvelle vie en nous? Bien, la Bible explique bien qu'à cause du péché, la mort est entrée dans le monde. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Avant la chute, avant le péché, la mort n'existait pas. Et là, la mort est entrée, la maladie est entrée. Tout ça est entré à cause suite à la chute et au péché. Et il y a une mort spirituelle qui fait en sorte que nous sommes séparés d'avec Dieu. Nous sommes morts sur le plan spirituel. On n'a pas cette relation intime avec Dieu. Et c'est le péché qui a causé ça. Romains 6 le dit bien, dans Romains 6, 23, nous lisons, « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La Bible est claire à ce sujet. Le salaire du péché, c'est une mort spirituelle, séparée d'avec Dieu. Paul va dire dans Éphésiens 2, « Vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. » Lorsqu'on vient à Jésus-Christ par la foi, il nous donne sa vie. Et cette vie nous apporte toutes sortes de privilèges, toutes sortes de bénédictions et de richesses spirituelles. quand on devient un enfant de Dieu. Voici comment Paul l'explique dans le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Réalises-tu que si tu es un enfant de Dieu, tu es la personne la plus bénie possible, tu es riche en Jésus-Christ, tu es comblé, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu avec toutes les richesses, l'héritage et tout ça qui vient maintenant de ce royaume. Alors la vie en Jésus-Christ va avoir un impact sur nous autres. Ça introduit certains changements. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, veux pas, cette nouvelle vie qui est en nous va provoquer, va introduire certains changements en nous. Par exemple, notre vision va commencer à changer, notre vision du monde, notre vision de certaines choses va changer. Sa vie, la vie de Jésus-Christ en nous, va nous faire voir les choses différemment. On a une nouvelle vision des choses. La personne qui a la vie éternelle est consciente maintenant des réalités divines. Elle est consciente de la sainteté de Dieu, comme jamais auparavant. Elle comprend l'amour de Dieu d'une autre manière, plus profondément. Elle comprend mieux le sacrifice de Jésus-Christ. Elle comprend mieux le ciel. Elle comprend mieux l'enfer. Elle a une vision du monde qui est différente. Et c'est la vie divine de Jésus-Christ qui est maintenant en toi, qui nous fait voir cette nouvelle vision. Deuxièmement, la vie de Jésus nous donne la capacité de briser certaines habitudes. D'ailleurs, l'image que les Écritures vont employer, c'est le mot « esclave ». C'est qu'avant de venir à Jésus, nous étions esclaves du péché. Nous étions prisonniers, pris par le péché. Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, Jésus te libère de l'esclavage du péché. Si avant tu étais à cinquième vitesse, tu n'avais pas le choix d'aller à toute vitesse dans le mal, maintenant tu es sur le neutre. Par la puissance du Saint-Esprit, tu as maintenant cette capacité, cette puissance de pouvoir surmonter les tentations. Évidemment, oui, la tentation est encore là, nous luttons encore, notre corps n'est pas encore changé, parfait, on n'a pas été ressuscité, mais un jour ça viendra, on aura un corps glorieux où il n'y aura plus de tentation, plus de péché. En ce moment, on lutte encore à cause de cela. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, on peut avoir la victoire. Alors, la vie de Jésus en nous nous donne une nouvelle vision, de nouvelles capacités, mais aussi de nouvelles réalités. Tu as reçu maintenant des dons de l'Esprit. Il y a plusieurs dons qu'on voit dans les Écritures. Ça, c'est une énergie divine, une capacité divine pour accomplir une œuvre que Dieu veut te confier. C'est les dons, ça, c'est les dons de l'Esprit. Tu vas ressentir aussi l'amour de Dieu dans ton cœur comme jamais auparavant, lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu reçois cette nouvelle vie. Tu as l'Esprit Saint qui est en toi, qui ne cesse de témoigner à ton cœur que tu es son enfant et que tu lui appartiens. Imagine, tu as cet esprit d'adoption, tu as cette assurance d'être l'enfant de Dieu qui nous vient surnaturellement par la puissance du Saint-Esprit en toi, parce que Jésus vit en toi. Tu sais que notre cœur a été fait pour l'amour de Dieu. Et quand tu viens à Jésus-Christ pour recevoir la vie, le Saint-Esprit va répandre maintenant l'amour de Dieu dans ton cœur. Et ça, c'est super. Romains 5 le dit comme ceci. Il dit, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Imagine-toi, déversé. Le rôle du Saint-Esprit, c'est remplir ton cœur continuellement, témoigner que Dieu t'aime. Alors, c'est ce que Paul, Pierre, Jacques, Jean, et Jésus essaie de nous dire dans ces passages, c'est que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, ça chambarde le fondement même de tout ton être. C'est le premier aspect de la puissance du royaume, la puissance du royaume de vie. Mais il y a la puissance aussi de croissance. Tu as reçu ça aussi lorsque tu reçois Jésus-Christ. Il y a une puissance en toi maintenant qui te fait grandir. Il faut que ça pousse, il faut que ça grandisse. Alors, autant la semence que le levain fait grandir, grossir, croître. Un grain de moutarde, c'est très petit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus va se servir de cette image-là. C'est une image qui était bien connue. Même les rabbins se servaient de cette image-là lorsqu'ils voulaient parler de quelque chose de petit. C'était classique à l'époque, on disait ça. Gros comme un grain de moutarde. Maintenant, tu regardes un grain de moutarde, c'est très petit, puis tout d'un coup, c'est quand même assez phénoménal de voir, de réaliser qu'un petit grain de moutarde comme ça, tout petit, peut devenir un arbre de 10 pieds, puis les oiseaux peuvent venir sur des branches. C'est quand même phénoménal, c'est incroyable. Et ce que Jésus est en train de lui dire, c'est que cette vie maintenant qui est en toi va grandir, veut produire, veut te transformer, te faire grandir, te changer, et que tu deviennes de meilleur en meilleur, et que tu ressembles davantage, de plus en plus à Jésus-Christ. Et ça, c'est magnifique. Magnifique, ça, quand tu veux grandir dans le Seigneur, c'est tout à fait possible, c'est là, tout est là pour que tu puisses grandir dans le Seigneur. Puis c'est puissant. C'est lent, mais c'est puissant. On a vu, hein? On a vu des semences pousser à travers du béton, là, pousser à travers de l'asphalte. Tu vois tout d'un coup un arbre. Et c'est puissant, et c'est ça, une belle image que Jésus va employer ici. Alors, quand tu reçois la vie éternelle, tu participes maintenant à la nature divine. Et Jésus va servir d'une autre image, celui du levain. Regarde au verset 20 ce qu'il dit ici, Luc 13, 20. Il dit encore, « À quoi comparais-je le royaume de Dieu? » Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Et ça, c'est beaucoup, là. Vous savez, à cette époque-là, on avait des petites maisons, 220 pieds carrés à peu près, alors ce que les femmes faisaient, elles allaient dehors dans la cour ou en avant, sur le terrain, et faisaient du pain à l'extérieur. Et il arrivait parfois qu'on faisait ça pour la communauté, puis on travaillait ensemble dans la communauté pour faire du pain. Et c'est ce qui arrive ici, 3 mesures, c'est assez gros, c'est à peu près 50 livres. On parle de faire 150 pains environ. Et ça prend juste un peu de levain pour faire lever tout ça, là. Et c'est le point que Jésus est en train de faire. Juste un peu de levain va affecter, va avoir un impact sur toute la pâte. Et c'est ce qui arrive lorsque Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit vient dans ta vie, puis il va affecter toute ta vie. Regarde Galates 5, fruit de l'Esprit. Regarde ce que le Saint-Esprit produit en celui qui vient à Jésus-Christ. Il va produire le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. C'est la foi aussi. C'est la douceur. C'est la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, c'est ce qui arrive. C'est ce fruit qui est en train tranquillement de produire ces belles qualités de vie là, ici. La maîtrise de soi, l'humilité, l'amour, la joie. Et c'est ce qui se passe quand tu deviens chrétien. C'est ce que Dieu veut produire en chacun d'entre nous. Alors, on a vraiment besoin, humblement ce matin, de sonder notre cœur devant Dieu et de dire, « Seigneur, est-ce que je suis en train de grandir? Suis-je en train de grandir dans tous les domaines qu'on vient de voir tantôt? L'impact de la vie de Jésus dans notre vie, dans tous les domaines qu'on a vus? Est-ce que je suis en train de grandir dans ma vision du monde, dans ma façon de voir Dieu, dans ma façon de comprendre Dieu, comprendre l'amour de Dieu? Est-ce que je suis en train de grandir dans les victoires après victoires à surmonter les tentations et le péché? Est-ce que je suis en train de me sanctifier, grandir dans ma sainteté? Est-ce que ma vision de l'amour de Jésus grandit au point d'affecter toute ma vie et mon obéissance? Parce que plus on grandit, plus on saisit la bonté et la miséricorde de Dieu, plus on va pardonner avec bonté envers les autres. On va avoir ce pardon-là dans notre cœur. À mesure que je suis de plus en plus conscient de ce que Jésus a fait pour moi, à mesure que ma perception et ma vision du sacrifice de Jésus-Christ va grandir, je serai de plus en plus sensible envers les autres. Nous serons de moins en moins contrôlés par les circonstances qui nous entourent et de plus en plus contrôlés par le Saint-Esprit. Plus on réalise ce que Dieu a fait pour nous, plus notre cœur va s'élargir et va s'adoucir envers les autres. Même les gens difficiles, on commence à les aimer. On n'aime pas ce qu'ils font, mais il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur où tranquillement Dieu va adoucir notre cœur. On va les voir à travers la vision, comment Dieu les voit. Parce que l'on comprend de plus en plus que Dieu nous a acceptés, qu'il se plaît en nous, qu'il nous aime, quelles que soient nos faiblesses. Dieu nous aime. J'aime bien la prière de Jésus dans Jean 17. Et d'ailleurs, le chapitre, c'est Jésus qui prie. Et on divise ce chapitre-là. Il y a quatre gros morceaux dans ce chapitre-là. Jésus commence à prier pour sa glorification, versets 1 à 5. Ensuite, Jésus va prier pour ses propres disciples, versets 6 à 19. Et Jésus va prier pour ceux qui vont croire, ceux qui croiront. Versets 20 à 23. Ça, il priait pour toi, là. Il priait pour toi qu'un jour. Et Jésus prie pour que tous les croyants atteignent la perfection qui va leur permettre de contempler la gloire de Jésus. Versets 24 à 26. J'aime bien ce que le verset 23 dit. C'est la prière de Jésus. Et voici ce qu'il demande dans sa prière. Il dit, « Afin qu'ils soient parfaitement un. » Alors, il prie pour notre unité. Il prie que les chrétiens soient unis. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Que le monde reconnaisse que Dieu a envoyé Jésus. Et que tu les as aimés. On parle de nous autres. Que Dieu nous a aimés comme tu m'as aimé. Et pensez-y, là. Dieu t'aime autant qu'il aime son Fils. Réalise-tu ça, là? Non, mais pensez-y, là. C'est gros, là. Dieu t'aime autant qu'il aime son Fils. Sa prière est une promesse que nous soyons tellement transformés par la révélation de Dieu que l'amour de Dieu pour son Fils devienne la nôtre. En d'autres mots, l'amour de la Trinité se répand puissamment en nous et entre nous. Je ne sais pas si vous êtes romantique. Est-ce qu'il y a des romantiques ici, là? Êtes-vous romantique, vous autres? Hein? Ah, oh, toi, je sais, Sébastien, c'est romantique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qui est romantique ici, là? Oui? Levez donc la main, toutes les romantiques, là. Ah, Gilles, lève ta main, Gilles. Toi, dans tes, je sais que tu es romantique. Arrête donc, là. Hey. Écoute, il n'y a rien de plus romantique que l'Évangile. Rien se compare au romanticisme, au romantique de Dieu. Dieu est romantique. Dieu t'aime à la folie. Il t'aime, mon ami. Hein? Dis-le à ton voisin, là. Dieu t'aime à la folie. Allez, là. Il a besoin de l'entendre. Il me semble que c'était pas long ce que j'avais dit, là, mais... OK, c'est correct, là. Avez-vous commencé une jasette, quelque chose? Quoi? Ça jasette. On a besoin d'entendre. Hey, Dieu t'aime à la folie. Amen? Ah, oh, hey, il nous aime à la folie. Il n'y a rien de plus romantique que ça. Là. Si tu n'es pas encore venu à Jésus-Christ, là, si tu es encore en train de réfléchir, là, encore en train de cheminer, tu penses, tu médites, il y a des gens qui nous écoutent par Internet et peut-être que vous êtes en train de cheminer, en train de réfléchir. Est-ce que je prends Jésus comme sauveur? Est-ce que j'accepte, je crois que Jésus est le sauveur, qu'il est allé à la croix pour moi? Eh bien, c'est vraiment le temps de le faire. C'est vraiment aujourd'hui. Pourquoi attendre un si beau message d'amour que ça? Dieu veut une relation amoureuse avec toi. Il a tout fait pour avoir cette relation-là. En envoyant son propre Fils sur la croix, prendre sur lui tous les péchés que tu as commis, que j'ai commis, afin de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et pour nous qui sommes chrétiens, bien, tout est là pour grandir. On a tout pour grandir, pour croître, pour être transformé, devenir le meilleur qu'on peut devenir, progresser, grandir. On est fait pour grandir dans le Seigneur. Nous avons la puissance de vie, la puissance de croissance. Tout est là pour que tu grandisses en lui. Et la croix, c'est la plus grande manifestation de puissance dans l'histoire de l'humanité. Vous savez, Jésus qui est sur la croix, là, il aurait pu lever un petit doigt, même juste en parole. Et toutes les armées du ciel seraient venues pour le défendre, seraient intervenues pour détruire complètement tous les ennemis de Jésus-Christ. Mais il a choisi de se retenir. Il a choisi d'être dans la faiblesse. Pourquoi? Afin que toi, tu puisses devenir fort. Et Philippiens 1, 6 dit ceci. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé quelque chose en toi, puis il n'a pas fini avec toi, tu sais ça? Il n'a pas fini avec toi. Si tu es une épouse, ton mari te décourage un petit peu, encourage-toi. Dieu n'a pas fini avec lui. Non, vous pouvez avoir dire, dites pas amen. Il y a des endroits qu'il faut dire amen, mais pas là. Tu vas avoir une belle journée. Qu'est-ce que tu voulais dire un matin quand tu as dit amen? Oui, amen. Amen. Hein, chérie? Ah, oui, je te dis. Hey, Dieu n'a pas fini avec nous autres. Dieu veut transformer, veut te rendre meilleur. Il veut te faire grandir. Et des fois, on est découragé, honnêtement, parce qu'on aimerait ça changer un peu plus vite. C'est vrai? Des fois, tu retombes dans des vieilles habitudes, tu retombes dans des vieux péchés, tout ça. Puis ça, c'est décourageant. On était là, mon ami, vas-tu m'en sortir? Puis c'est décourageant. Puis tu commences à te sentir coupable. Tu commences à te demander, est-ce que Dieu va me pardonner? Cette fois-ci, ça fait à peu près 52 fois. Vas-tu me pardonner? Puis là, tu te sens coupable, la culpabilité est là, tout ça. Est-ce que Dieu va me pardonner mon passé? Il y a des gens qui viennent au Seigneur, puis ils ont un passé tellement lourd. Est-ce que Dieu va me pardonner mon passé? Et tu te décourages, tu n'es pas le mari que tu devrais être, tu n'es pas l'époux que tu devrais être, tu n'es pas le parent que tu devrais être. Et là, puis à un moment donné, c'est tellement décourageant. Mais le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur est en train de faire une œuvre en toi. Il n'a pas fini avec toi. Il est en train de te transformer. Dieu veut que tu saches et que tu te rappelles que la puissance de guérir, la puissance de persévérer, la puissance d'aimer, la puissance de servir, la puissance d'obéir, toute la puissance dont tu as besoin, ça ne relève pas de toi. C'est Dieu qui va te donner cette puissance-là. C'est Dieu. Dieu veut te donner cette puissance. Et cette puissance-là dont on dispose maintenant, qu'on fait partie du royaume de Dieu, est tellement grande, tellement riche, que même l'apôtre Paul va prier pour demander à Dieu qu'on puisse la saisir, qu'on puisse la comprendre un peu mieux. En d'autres mots, il y a beaucoup de puissance qui est là, mais qu'on ne saisit pas, qu'on ne réalise pas. C'est pour ça que Paul va même demander à Dieu de nous aider à saisir un peu mieux et un peu plus la puissance de Dieu. Dans Éphésiens 1, 18, par exemple, voici sa prière. Voici ce qu'il dit. Je prie qu'il illumine, je demande à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alors, si la puissance de Dieu est en toi, alors tu as une force en toi qui est indescriptible, infinie, invincible, et cette force-là, cette puissance de Dieu va te garder, va te faire grandir, va te faire croître à travers n'importe quelle circonstance, même à travers les épreuves. Il va même se servir des temps difficiles de ta vie pour te faire grandir. Cette puissance divine est pour toi, elle n'est pas contre toi, elle est pour toi. Et moi, j'aimerais terminer avec ce passage dans Ésaïe 41 qui dit ceci. N'aie pas peur. Car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et le Dieu de l'univers qui a tout créé. Là. Dieu dit, je suis ton Dieu. Je te fortifie. En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur. Je viens moi-même à ton secours. Certains parmi vous, vous êtes en train de passer par des temps tellement difficiles. Des gens qui viennent me voir régulièrement, me partager leurs épreuves. Et certains parmi vous, vous êtes en plein dedans. Et c'est tellement difficile. Le Seigneur est en train de dire, je vais te fortifier. je suis avec toi, je vais te tenir par la main, je vais te fortifier. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu ne t'abandonnera pas. Alors, grandir, tu es fait pour grandir. Alors, grandissons ensemble, de plus en plus, par la puissance de Dieu. Prions notre Dieu. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Quand on regarde ensemble, qu'on cumule ensemble tout ce que tu as fait pour nous, combien nous sommes gâtés. Aucun de nous ne mérite, Seigneur, autant de richesses et de bénédictions. Et pourtant, Paul te remercie, te loue. Et il dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est toi-même qui le dis, que tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Alors, Seigneur, nous qui sommes tes enfants, tu as tout fait, tu as tout mis en place, tu as mis ta vie en nous pour que nous puissions grandir, que nous puissions devenir de meilleur en meilleur. Alors, Seigneur, nous te prions que par ta grâce, tu permettes que nous puissions marcher dans la victoire, marcher dans la sainteté, prendre des décisions ce matin, de mettre de côté ce qui nous ralentit, qui ralentit notre progrès, notre croissance, ce péché qui étouffe parfois l'œuvre de l'Esprit. Seigneur, ce matin, nous voulons nous redonner à toi pour que tu puisses continuer à accomplir cette œuvre puissante en nous. Et merci que ta grâce ne tient pas compte parfois de notre chute, nos péchés. Tu continues à nous faire grandir. Alors merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu t'es assuré que l'Esprit Saint vive en nous et puisse produire de beaux fruits comme on a vu ce matin. Alors Seigneur, nous voulons t'honorer, te glorifier en marchant une vie sainte. De plus en plus, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.